On va laisser la parole à Nicolas Madieu. Donc Nicolas Madieu, vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la sociologie des conflits et des émotions. Vous êtes aussi directeur du CERIS, le Centre d'études et de recherche sur l'intervention sociale, et membre du laboratoire Culture et Société en Europe de Strasbourg. Vous êtes auteur de nombreux articles sur le phénomène émotionnel, le travail social, la notion de conflit et la gestion des émotions, notamment en entreprise. C'est d'ailleurs cette perspective plus managériale qui nous intéresse dans votre approche du travail émotionnel. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bien, merci pour votre invitation. Il y a toujours plein de choses à dire dès qu'on ouvre un petit peu la boîte des émotions du point de vue sociologique. À chaque fois, ça me fait le même effet. C'est pour ça aussi que je suis très content de pouvoir venir un petit peu discuter avec vous toutes et vous tous sur cette question, parce que ça résonne en permanence chez moi quand on aborde ces questions-là qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, quand on travaille dessus, je ne sais pas si ça te fait le même effet, mais moi, l'effet que ça me fait, c'est que parfois je me sens complètement, oppressé en fait par la vastitude du sujet, de l'émotion qui est partout, tout le temps, pour chacun, qui est à la fois singulière et universelle, a des exigences méthodologiques, et en même temps, si on essaye de s'y contraindre trop fortement, on sent qu'on n'arrive pas à avoir accès à une certaine authenticité, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et donc, je vais essayer de faire un petit point pour vous dire comment j'ai essayé d'aborder cette question des émotions, de manière générale, dans une tentative d'application sur un terrain d'étude qui est celui de l'intervention sociale. Et pas n'importe quelle intervention sociale, c'est un petit peu le travail social canal historique, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est la polyvalence, qu'on appelle la polyvalence de secteur, donc les assistantes sociales, les assistantes de services sociaux qui travaillent pour les départements depuis les lois de décentralisation. Donc là, on est vraiment au cœur, si vous voulez, du travail social, dans un processus historique, culturel et aussi en termes d'identité professionnelle pour ces assistantes sociales. Alors, j'ai prévu deux grandes parties de discussion avec vous, enfin de points. Je vais vous lancer des points, puis après on abordera les questions plus précisément dans la discussion peut-être. Une première partie sur la question de la définition de l'émotion et puis des problèmes épistémologiques et méthodologiques que ça soulève. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait à la fois l'intérêt, la pertinence de cet objet d'étude, les émotions, c'est que ça vient bousculer un petit peu le champ de l'analyse sociologique. Donc ça, je ne vois pas trop comment on peut en faire l'impasse. Et puis la deuxième grande partie portera plus sur la question du lien entre expérience émotionnelle et travail social, et notamment le lien avec ce que Vincent de Goljac appelle par exemple l'idéologie managériale qui s'introduit dans les sphères du travail social, mais qui, comme l'a fait remarquer Julien tout à l'heure, Arlie Hochschild est aux prémices de cette évolution lorsque le bouquin sort en 83. Donc sur la question de la définition des émotions. Alors, dans mon travail de thèse, qui s'intéressait à cette question-là, j'ai essayé de donner une définition. Et j'étais très embêté. Très embêté parce qu'à chaque fois, je me retrouve devant des dualismes. Et qu'au bout du compte, j'arrivais sur des réflexions un petit peu aporétiques quant au statut des émotions en sociologie. Voilà, donc j'arrive pas toujours l'impression d'arriver au bout, mais je me suis décidé à dire, voilà, un positionnement. Un positionnement qui était le suivant, c'est que j'ai essayé de distinguer ce qui est de l'ordre du phénomène émotionnel, d'une part, et d'autre part, ce qui est de l'ordre des éprouvés signifiants. On retrouve un petit peu la même idée chez Hochschild, j'espère pas trop dénaturer son propos, mais c'est comme ça que je l'avais compris. D'une part, elle dit que les émotions peuvent être orientées vers les cognitions, et puis d'autre part, les émotions peuvent être orientées vers l'action. Voilà, c'est deux distinctions qu'elle fait. Moi, je suis parti un petit peu sur cette idée-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça sous-entend, cette idée, cette notion de phénomène émotionnel? D'abord, c'est l'idée que, en fait, les émotions renvoient à des besoins et à des anticipations, qu'elles ont des assises biologiques, psychobiologiques, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait aucune contextualisation sociale, mais qu'il y a une assise première qui est biologique et psychobiologique, ce qui ouvre la voie en fait à des approches sociocognitives. Et dans ma thèse, j'ai essayé vraiment d'ouvrir sur les approches sociocognitives. Donc, j'ai étudié toute l'évolution en fait des théories des émotions en psychologie, parce qu'en même temps, j'ai fait de la psychopatho, donc en psychologie, et en même temps l'évolution des théories des organisations et du travail en sociologie. Et en fait, on se rend compte que les deux se répondent, évidemment, quoi. C'est-à-dire, quand on a des approches mécanistes en termes de théorie des émotions, ou sur les approches périphériques, physiologistes, on a des approches mécanistes en termes de sociologie des organisations. Voilà. Et après, il y a le tournant des relations humaines. Et de l'autre côté, il y a Kurt Lewin avec la théorie des champs, et on commence à s'intéresser aux relations humaines, à la théorie des motivations, etc. Et donc, vous voyez, c'est vraiment deux champs qui évoluent ensemble. Voilà. Alors, dans le phénomène émotionnel, ça recouvre aussi l'idée qu'il y a des émotions universelles, qu'il y aurait des émotions primaires, des émotions secondaires. Donc là, c'est Ekman, c'est le circumplexe, etc. Voilà, c'est tout cet ensemble d'idées-là, qu'il y ait des émotions qui soient universelles, partagées entre les êtres humains, et que du coup, ça permet une communication entre les êtres humains et en même temps d'assouvir certains besoins fondamentaux, ce qui n'a rien à voir, je ne sous-entends pas là, la pyramide de Maslow avec la satisfaction, etc. Ça, on pourra y revenir, mais ça, je ne suis pas trop d'accord là-dessus. Et puis, l'autre aspect de ces phénomènes émotionnels, c'est que ça renseigne les individus, l'acteur social, et là, on rentre dans la phénoménologie schutzéenne, si vous voulez, donc cette espèce de déviation complète, totale de la phénoménologie husserlienne, quand Schütz la rapporte en fait à la sociologie avec la mise en avant du donné mondain, et ça renseigne sur le statut d'ego dans le donné mondain et sur son statut et sa position sociale dans des réalités qui sont de plus en plus multiples. Ce que tu soulignes qui est vachement intéressant, du coup, c'est que les individus sont confrontés à des réalités multiples aujourd'hui, et peut-être que les sentiments viennent signaler ces effets de concurrence dans des manières d'être au monde. Alors on retrouve un petit peu ces idées dans d'autres théories des émotions, notamment anglo-saxonnes, par exemple chez Theodore Kemper sur le Status Power Control Theory, chez Kurt Lewin aussi. Du côté des éprouvés signifiants, on est plutôt du côté du vécu et du côté de la singularité et du côté du fait, dans l'idée de dire que en fait les émotions, on peut pas considérer qu'elles puissent être transposables d'un individu à un autre ou d'une scène sociale à une autre. C'est-à-dire qu'elles sont toujours dépendantes du contexte dans lequel elles apparaissent et des individus qui les éprouvent. Et là, on rejoint alors le débat qui a existé entre épistolaires d'ailleurs, ils ont échangé des lettres dans des revues entre David Le Breton, mon collègue David Le Breton, et comment s'appelle maintenant le sociologue, le psychologue suisse, tu vois? Klaus Scherrer. Où au bout d'un moment, David Le Breton dit bon, mais écoute, en fait, on discute pas de la même chose, quoi. Moi, je discute du vécu, du côté du signifiant, etc. Vous êtes du côté de la psychologie expérimentale, etc. C'est très bien aussi, mais en fait, le débat va s'arrêter là parce qu'on ne discute pas la même chose. Parce que David veut rester du côté du signifiant, de l'éprouvé, de la singularité, de la particularité de l'émotion telle qu'elle est éprouvée par les individus. Donc là, on est du côté d'une compréhension de l'émotion comme quelque chose qui s'enracine dans la singularité de l'acteur et dans des contextes organisationnels et institutionnels qui sont particuliers. On est du côté de la puissance de l'émotion. En tant que l'émotion constitue un vecteur privilégié d'une réciprocité de sens, ça rejoint Georg Simmel, hein, qui, qui aussi est un des auteurs importants, un des seuls auteurs d'ailleurs en sociologie, si tant est qu'on s'accorde à dire qu'il est sociologue, peut-être plus philosophe social, et qui soulignait l'importance des sentiments psychosociaux dans sa sociologie des formes. Et cette réciprocité de sens qui donc agit l'acteur et qui agite aussi la société, qui participe à son bouillonnement, ça c'est la métaphore de Nathalie Despraz. Bref, dans cette compréhension de l'émotion comme éprouvée signifiant, on n'est pas du côté des besoins ou des anticipations socio-cognitives, on est plus du côté du désir. Et donc on accède à une sphère plus intime, plus profonde de l'individu, mais du coup, ça empêche, si vous voulez, ça cadre et ça empêche une montée en généralité. J'en viens donc à mon deuxième point. Ben, vous voyez que ça pose des problèmes épistémologiques et méthodologiques. D'abord, l'émotion, c'est une problématique transversale au champ des sciences humaines et sociales et qui, pour moi, demande un dialogue avec les sciences expérimentales. Ensuite, la définition des émotions, elle peut se faire qu'au prix d'une construction intellectuelle. C'est un objet sur lequel on est obligé de passer par une construction intellectuelle. Et cette construction, elle est intimement liée aux positions et aux dispositions des acteurs dans leur contexte, donc dans les terrains, d'accord, des acteurs dans leur contexte, dans leur terrain, d'une part, mais aussi, et d'autre part, du chercheur dans le sien. Et donc, derrière, il y a une exigence de réflexivité. Si vous regardez à la fin du bouquin de Julien, il revient sur cette question de la réflexivité. Parce que je crois que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui travaille sur ce champ de la sociologie des émotions, il est confronté à cette question de la réflexivité. Alors, elle s'articule autour de quatre points. D'abord, le problème, le premier point, c'est le postulat empathique. Pour accéder aux émotions des autres, pour accéder à ce matériel sociologique, il faut passer par le fait que je sois capable de me mettre à la place de l'autre. Donc, finalement, ce matériel ne peut exister que dans la relation que je noue avec l'autre et que dans le fait que je sache qu'il est possible que la personne puisse ressentir telle ou telle émotion ou fasse l'expérience de tel ou tel sentiment, émotion, etc. Et puis, l'autre problème, c'est que ce postulat empathique, il draine avec lui ce que Weber appelle le savoir nomologique, ou Simmel appelle la psychologie conventionnelle. C'est-à-dire ce qui est pris pour, ou ce que Schütz appelle ce qui est pris pour le taken for granted, ce qui est pris pour allant de soi, ce sur quoi on n'interroge pas, les routines. D'accord. Et il y a une certaine part des émotions qui constituent des routines sociale. Et en fait, quand on est sociologue, on va s'interroger sur est-ce qu'on est dans de la routine ou est-ce qu'on est dans de l'éprouvé qui vient signifier. Ou quand on interroge l'acteur sur ce qu'il a éprouvé à ce moment-là, est-ce que finalement on ne vient pas donner à une émotion qui n'était pas forcément plus pertinente qu'une autre pour l'acteur, est-ce qu'on ne vient pas finalement lui demander de justifier, en se justifiant, on vient introduire une pertinence nouvelle pour cette émotion-là. Donc ça, vous voyez, ça pose des questions d'accessibilité aux émotions. Et puis, deuxième point, ça demande un positionnement épistémologique et méthodologique clair. Alors moi, dans ma thèse, j'avais souligné que j'étais d'accord, par exemple, avec Vincent de Goljac quand il disait que le social et le biologique préexistent au psychique et que le psychique va ensuite façonner le social et éventuellement façonner le biologique à son tour. D'accord, mais qu'on est en fait dans un contexte social particulier qui va nous façonner et avec des attributs biologiques aussi qui nous façonnent, même si à notre tour nous pouvons façonner du fait de notre identité aussi, avoir notre impact sur ce social et ce biologique. Harley Hirschfeld, dans son livre, elle montre, et plusieurs articles après, parce qu'il y a eu des critiques sur Harley Hirschfeld et sur sa théorie, elle dit, et on le sent très bien, son positionnement, c'est un point de vue, elle appuie ses considérations sur la question des émotions et du travail émotionnel sur une perspective, un objectif aussi, qui est celui de montrer les nouvelles formes d'aliénation au travail. Et elle reprend des terminologies marxistes dans pas mal de ses travaux. Et donc là, il y a une assise, mais qu'il faut mentionner, qui est importante, et qui peut aussi expliquer un certain nombre de critiques qu'on peut lui apporter. Le troisième point, c'est comment est-ce qu'on en rend compte ? Alors là aussi, pareil, je vous renvoie à la fin de l'ouvrage de Julien sur cette question. Est-ce qu'on en rend compte par une écriture froide, où on va chercher à être objectif, au risque de la réification, voire de la réduction de la complexité, ou est-ce qu'on va chercher à rendre compte des émotions par une écriture plus chaude, plus romancée parfois, mais là aussi, alors du coup, au risque de l'esthétisme. Et donc de la perte de scientificité. Le quatrième point, c'est la légitimité et le statut des données. Finalement, de quoi on parle ? Il y a toujours cette question en fait en arrière-plan. De quoi on parle ? On parle d'émotion, ok, mais de quoi on parle ? Alors certains vont dire on parle d'émotion ou de sentiments ou d'affect ou d'humeur. De rumination mentale, etc., etc. On peut le définir comme ça. Et puis d'autres vont dire, on parle en fait de la façon dont on gère ses émotions en profondeur, en surface. Mais quel est le statut que l'on peut accorder à ce matériel-là ? Je veux dire, quelle est la régularité sociologique qui s'exprime derrière ? Est-ce qu'il y en a une ? Ou est-ce que ça n'appartient pas finalement purement et simplement à l'individu, et donc du coup on devrait le laisser, comme ça a été longtemps le cas pour la sociologie, ce champ-là à la psychologie, et en quelque sorte essayer de s'en démarquer. Voilà, je vous livre toutes ces interrogations-là comme ça pour la discussion. Ça, d'ailleurs, je crois, enfin, c'est mon sentiment, mais c'est peut-être un peu biaisé parce que j'ai peut-être pas tout l'ouvrage en tête. Je l'avais lu en anglais à l'époque de ma thèse et je l'ai relu en français. Et je dois remercier évidemment la traduction française, ce travail de traduction qui est vraiment, vraiment très, très important. Ne serait-ce que pour venir asseoir encore une fois la légitimité des travaux sur la sociologie, en sociologie des émotions, ce qui n'est pas une chose donnée. Encore aujourd'hui en France, travailler sur les émotions en sociologie, c'est pas quelque chose d'évident d'un point de vue de la recevabilité académique des travaux. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important que cette traduction. Sur l'expérience émotionnelle et le travail social. Alors en fait, ça a commencé évidemment avec un lien toujours particulier avec le terrain. Moi, je voulais m'intéresser à la question des émotions. Et il se trouve que j'étais à cette époque-là en stage pour un, je ne sais plus si c'était master de socio ou de sciences politiques, enfin bon, bref, que peu importe, dans un conseil général. Et j'avais l'opportunité d'aller faire une évaluation, entre guillemets, d'un dispositif d'action sociale dans un département. Et donc je me suis dit, en fait, c'est une bonne porte d'accès aux travailleurs sociaux, aux assistantes sociales. En sachant qu'à côté de ça, je voulais aussi travailler avec les avocats et j'avais commencé un travail avec les équipes mobiles de soins palliatifs pour travailler cette question de la gestion des émotions. Et quand j'ai fait mes premiers entretiens avec les assistantes sociales, des entretiens qui étaient des entretiens exploratoires, donc plutôt des entretiens informels, je me suis rendu compte que il y avait un petit souci. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'une heure, j'avais une première personne en entretien qui, au bout d'une heure, tombait le masque et décompensait en quelque sorte devant moi, se mettait à pleurer, me disait que ça allait pas trop, commençait à me parler de ses problèmes, etc. Bon, ça arrive une fois, voilà, ça peut arriver que quelqu'un ne soit pas bien. C'est une situation extraordinaire que l'on crée en situation d'entretien en sciences sociales. Donc c'est aussi l'occasion pour les personnes. On vient aussi soulever un petit peu des choses qui font parfois mal. Deuxième entretien, se passe bien. Troisième entretien, rebelote. Quatrième entretien, rebelote. Cinquième entretien se passe bien. Forcément, j'avais affaire à quelqu'un qui sortait de l'ENA, qui n'a cessé de me répéter pendant trois quarts d'heure qu'il était un facilitateur. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis ressorti en me disant, bon, ben, merci. fort demeurant ou sympathique, mais sur le point de vue du matériau sociologique, c'était pas formidable. Donc il avait réussi à rester très, très hermétique. Il avait très bien joué son jeu, de ce point de vue-là. Et sixième entretien, rebelote. De nouveau, des pleurs, personne qui s'effondre. Alors je me dis, voilà, il y a deux solutions. Soit je suis tombé que sur des gens qui vont pas bien. C'est possible, je sais pas. Soit il y a vraiment des choses qui se passent dans ces services qui font que ces gens ne vont vraiment pas bien. Soit c'est moi. Et je dis des choses où j'amène avec moi, je draine des questions, etc. Une ambiance qui doit être quelque peu délétère pour l'équilibre psychique des personnes. Voilà. Donc, comme j'ai enchaîné avec un DEA en psychopatho et en continuant toujours la sociologie, j'ai un petit peu travaillé la troisième solution de mon côté. Pour essayer de contrôler un petit peu tout ça. Et puis je me suis penché d'un point de vue sociologique sur la deuxième solution. Voilà. Sur la deuxième solution. Qu'est-ce qui fait que dans le contexte organisationnel et institutionnel que vivent ces personnes, lorsqu'il y a une personne extérieure qui vient les interroger sur leur rapport à leur travail, il y a un tel effondrement. Donc, en fait, je me suis retrouvé en face de personnes qui manifestaient, par certains aspects, des syndromes de burn-out, de dépression, voire de mélancolie sévère. Voilà. Mais comment ça se fait que ça se manifestait à ce moment-là et quand je les interrogeais sur leur rapport au travail? Et du coup, ça m'a amené, évidemment, à aller du côté du subjectif, et plus encore que du subjectif, du côté de l'émotionnel. Qu'est-ce qui se joue chez eux d'un point de vue émotionnel dans leur rapport au travail. Et c'est ça qui m'intéressait. Voilà, ça a été ma clé d'accès à ce travail, à cet objet en sociologie des émotions. Alors, pour le comprendre, pour essayer de comprendre ce qui vient marquer leur rapport au travail d'un point de vue émotionnel, je vais essayer de souligner cinq choses. D'abord, le contexte. Alors, le contexte, et ça, c'est évidemment hyper intéressant. Le contexte, c'est à peu près ce que dépeint, grosso modo, ce que dépeint Harley Hirschfeld dans son bouquin en 83. Et qui, moi, me fait beaucoup penser, mais là, c'est un effet conjoncturel, comme je suis en train de regarder la saison 4 de Mad Men. Il y a quand même beaucoup de choses qui font penser à Mad Men. Enfin, bon, bref. C'est celui d'une mutation des organisations et des institutions dans lesquelles s'ancre la pratique professionnelle des assistantes sociales. Alors, trois éléments de mutation du contexte. Premièrement, une spécialisation et une technicisation croissante. Spécialisation et technicisation croissante, tout simplement parce qu'il y a une diversité de public, une diversification des partenaires aussi, et il y a les effets de la décentralisation et de la territorialisation des politiques d'action sociale. Tout ça fait que la pratique professionnelle se comprend comme quelque chose de plus en plus spécifique, avec des objets, des dispositifs, des publics, des partenaires spécifique et en même temps une de plus en plus complexe, techniquement aussi et administrativement. Deuxième point de contexte, de mutation du contexte, le contexte organisationnel qui gagne en horizontalité. Alors ça, c'est un truc formidable qu'ont inventé les Français, c'est le New Public Management, mais à la sauce française. C'est-à-dire, on vous dit, vous faites du management participatif, mais vous restez dans un système hyper bureaucratique. Donc on vous dit, allez-y, responsabilisez-vous, motivez-vous pour réussir, mettez au centre du dispositif d'action le bénéficiaire, alors, ou l'usager, comme on disait à l'époque, l'usager. On va gommer les effets d'hierarchie parce que vous allez tous vous investir avec vos compétences, vos capacités, votre motivation, etc. On est tous là pour lui, il est au centre de notre action, de notre travail. Sauf que derrière, le système reste un système bureaucratique, très weberien, légal, rationnel. Et que le système de sanctions et de rétribution des salariés, bah, il reste celui d'un système... un système weberien. Donc vous avez des effets de contradiction, en fait, en permanence, entre la façon dont on vous dit qu'il faut travailler et, en fait, la façon dont est structuré organisationnellement votre travail. C'est là-dedans, c'est dans ce contexte-là qu'on introduit les logiques de projet, les logiques d'évaluation, etc. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien, la logique de projet, la logique d'évaluation. Je dis que dans ce contexte-là, moi, j'en ai vu des effets délétères sur les personnes. C'est dans ce contexte-là aussi qu'on voit que l'autonomie des travailleurs sociaux, elle s'effondre. La marge de manœuvre des professionnels dans leur production d'un service social, elle s'effondre. Et leur spécificité professionnelle aussi. Du coup, vous allez voir, en fait, plein de débats, de colloques, de journées d'études qui vont fleurir sur la remise en cause la dimension clinique du travail social. Parce qu'on voit des effets de procédure, de rationalisation du travail derrière, qui viennent remettre en question, en fait, l'autonomie même des travailleurs sociaux. Et donc leur expertise, d'une certaine manière. Troisième point, c'est l'apparition de nouveaux acteurs du social et une mise en concurrence, en fait, des acteurs dans l'offre de services social. D'abord, le social, ça n'appartient plus à... ce n'est plus l'apanage de ces assistantes sociales de secteur ou, de l'autre côté, des éducateurs spécialisés ou, pendant un temps, des animateurs socioculturels et de l'éducation populaire, qui étaient les trois grosses branches du travail social. D'abord, le social, en fait, il s'est diffusé à l'ensemble de la société. Pratiquement toutes les grandes institutions, entreprises, etc., ont leur service social. Votre mutuelle, votre banque, votre truc, etc., peut vous offrir un service social, même jusqu'à certaines entreprises, par exemple dans le secteur automobile, qui vont pouvoir, vous, en tant que client, vous pouvez avoir accès, sous certaines formes, avec un certain contrat, à un service social. Voilà. Puis il y a là aussi la mise en concurrence par les services à la personne, le développement des services à la personne. Donc là, c'est très intéressant parce que ce sur quoi a travaillé, mais vous voyez, les Américains ont des années d'avance sur nous de ce point de vue-là, c'est le care drain, tout simplement. Hein. C'est le fait que là où il y a du contact et du relationnel avec les personnes, en fait, ce sont des métiers qui vont être déqualifiés. Et que les métiers qui sont les plus qualifiés, la qualification aujourd'hui, quand vous faites par exemple un diplôme d'État de travailleur social ou d'assistante sociale aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'à 6 ou 12 mois après votre sortie, donc dans votre premier poste, vous fassiez de l'encadrement. Et le passage au niveau 2, donc au niveau licence, là, ne va rien arranger à ça. Ça veut dire que ceux qui vont être au contact des usagers, c'est en fait des niveaux de qualification plus bas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le développement de l'économie sociale et solidaire aussi. Et tous les autres acteurs du secteur tertiaire, il y a un truc qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est les Pascal, le grand frère, aujourd'hui. Hein, c'est les gens qui font du social, en fait, en forme d'activité libérale. Mais on le voit aussi par l'essor des activités de médiation. Quand je travaille sur le conflit, on voit ça. Alors, ça me fait penser à ce que tu disais sur la concurrence des sentiments. Ça nécessite aussi énormément de négociations entre les différents acteurs pour essayer de trouver des normes, en fait, hein, dans chacune des relations, parce que les interdépendances sont de plus en plus compliquées. Enfin, bref... tout ça vient remettre en cause l'expertise des travailleurs sociaux et finalement, le social et la relation de service ne leur appartient plus. Elle ne leur appartient plus. Et il faut répéter quand même, parce que ça c'est important, on est au-delà du développement du secteur tertiaire. C'est-à-dire, la plupart des emplois en France aujourd'hui sont dans le secteur tertiaire. La majorité des emplois sont dans le secteur tertiaire. Et plus c'est un métier de service qui comprend du relationnel, plus c'est un métier féminisé, et plus c'est un métier féminisé et déqualifié. Ça, voilà, c'est vraiment des données là qui sont objectives. Donc, la relation sociale ne leur appartient plus, ce n'est plus leur apanage. Ils ont perdu leur expertise là-dessus, ils sentent que ça leur échappe. Et donc, ce que je dis toujours, c'est qu'on est passé du malaise de l'intervention sociale, vous voyez, avec les grands débats, émancipation ou contrôle et normativité, etc., au mal-être des travailleurs sociaux. Alors, ce mal-être des travailleurs sociaux, il s'exprimait à travers cinq objets d'expérience émotionnelle importante pour les travailleurs sociaux. Le premier objet, c'est la relation d'aide. C'est la relation d'aide et, si vous voulez, c'est ce qui fait le sel du métier. C'est François Dubé qui dit ça. Ça continue de faire le sel du métier pour les travailleurs sociaux. Et c'est là que se joue le rapport aux émotions, mais pas dans le sens d'un travail émotionnel en surface ou en profondeur. Dans le sens d'un travail sur les émotions, dans la réciprocité avec l'usager, dans le face-à-face, dans ce qu'on appelle le casework, où on sent qu'il se passe quelque chose. Moi, je parle de mise en disponibilité des horizons, pour reprendre une métaphore schützienne, donc des positions sociales possibles à travers ces rencontres qui sont des rencontres émotionnellement fortes. Et j'ai travaillé avec les travailleurs sociaux, avec les assistantes sociales, des choses très simples. Quand est-ce que vous êtes satisfaite? Quand est-ce que vous prenez du plaisir? Quand est-ce que vous avez de la joie? Quand est-ce que vous avez de la tristesse? Quand est-ce que vous avez de la colère, etc. Essayez de repérer un petit peu ce qui, dans leur pratique professionnelle, se joue. Là où ils ont de la joie, du plaisir, c'est dans cette relation d'aide et pas dans des choses qui vont être très visibles, dans des petites choses et où ils vont vous dire, en fait, j'ai senti qu'il y avait eu un déclic et que quelque chose s'est passé, qu'il a compris que il pouvait agir autrement, se positionner de manière différente. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et donc, si vous voulez, ce travail-là, qui est un travail sur les émotions entre l'usager et l'assistante sociale, il renvoie à des temporalités qui n'ont pas cours du point de vue de l'évaluation qu'on leur demande par ailleurs. On leur demande d'évaluer le nombre de sorties positives, etc. Ils vous diront non, en fait, on est dans une temporalité plus de l'ordre du kairos, c'est-à-dire de l'opportunité. À un moment, il y a une opportunité qui s'est ouverte, et là, j'ai été performant dans la relation d'aide. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est une charge émotionnelle très importante dans l'identité et dans le rapport au travail des assistantes sociales. La deuxième chose, c'est l'équipe. L'équipe, c'est un lieu de privilégié de résonance émotionnelle. J'avais essayé de distinguer plusieurs processus comme ça, processus d'objectivation, de socialisation, de collectivisation, de réification des émotions. Enfin bref, c'est-à-dire que la charge émotionnelle qui est liée au contact avec les usagers, au contact direct ou au contact des histoires des usagers, elle est rendue possible comme matériel pour le travail de production d'un service, parce que derrière, il y a une équipe. Et que quand on est pris dans une relation affective forte, avec négative ou positive, avec un usager, par exemple, quand c'est négatif, et qu'on sort de l'entretien, qu'on s'autorise à claquer la porte, qu'on va à la machine à café et qu'on peut déverser ce que l'on ressent avec son collègue et mesurer si on est pas dans le juste ou le faux, mais simplement si on est dans quelque chose de normalité. C'est-à-dire, est-ce que ce que je ressens, c'est quelque chose qui te paraît normal, qui te paraît recevable en termes de positionnement professionnel? Ça, c'est éminemment important. Et à mon sens, c'est là-dessus que je rejoins Bolton quand il critique un petit peu Horsheim, quand il dit, voilà, la dichotomie travail public, travail privé, la dichotomie travail emotional work, emotional labor, elle n'est pas suffisante. Et Bolton propose de distinguer entre un travail émotionnel pécuniaire, prescriptif, présentationnel et philanthropique, en disant, dans ces moments-là, ce n'est pas parce qu'on est en situation de travail qu'on ne peut pas aussi avoir agir de manière émotionnelle d'un point de vue philanthropique vers la personne ou d'un point de vue simplement présentationnel, en même temps répondre à une prescription, etc., etc. Voilà, mais ça, on pourra y revenir. La troisième chose, je finis très rapidement, c'est une temporalité qui était marquée par un sentiment d'infinitude, et notamment par des formes de mélancolie assez importantes que moi, j'ai essayé d'analyser comme étant l'expression d'une démotivation très forte vis-à-vis du travail de ces assistantes sociales, avec des gens qui me disaient qu'ils étaient là dans une forme de présence-absence, qui culpabilisaient même d'être dans cette présence-absence face à des personnes qui étaient là en souffrance, mais qu'eux n'arrivaient plus à être dans cette disponibilité-là, que supposait la relation, que ce dont ils rêvaient, c'est de devenir menuisier aubainiste pour arriver à faire un travail qui soit fini et arriver à s'épanouir dans le travail en visualisant ce travail fini. La quatrième dimension, c'est le travail de la question de l'écrit. L'écrit avec une importance de mise à distance, avec toute la question que pose le passage de l'oralité à l'écrit, donc de l'oralité vécue comme quelque chose de subjectif à l'écrit vécu comme quelque chose de rationnel pour faire passer des messages du côté de l'administration, mais aussi tout un travail de répression émotionnelle où tout ce qui pouvait être de l'ordre du subjectif quand c'était remonté vers l'administratif et donc vers la hiérarchie, en fait, était systématiquement barré, raturé, corrigé pour finalement revenir comme étant un message très légal, rationnel, vraiment, voilà. Et qui heurtait énormément les travailleurs sociaux. La dernière chose, et je m'arrêterai là, c'est l'effondrement d'un rapport aux autres qui était structurant identitairement. Ça peut paraître très bizarre, mais en fait, dans leur tête, dans plusieurs départements, on retrouvait cette idée qu'il y avait nous, les travailleurs sociaux, qui étions du côté des usagers, du côté de la charge émotionnelle, du côté du poids, de la souffrance de l'autre, et de l'autre côté, les administratifs, qui, eux, ne voulaient pas entendre parler de ça. Et ce conflit, c'était structurant. Au fur et à mesure que le langage de la novlangue, de l'idéologie gestionnaire s'est diffusé, il est venu brouiller cette frontière entre nous et eux. Parce que finalement, les travailleurs sociaux se mettent à parler d'évaluation, de projet, d'entretien N+1, etc., etc., etc. Et ils se retrouvent à parler des mêmes termes, avec les mêmes indicateurs. Et ils ne s'y retrouvent plus, ils sont un peu perdus. De ce point de vue-là. Ça ne leur permet plus de structurer leur relation, leur rapport au travail et, quelque part, de gérer la charge émotionnelle qui incombe à leur rapport à la souffrance humaine. Ce qui crée de l'angoisse. De l'angoisse parce que, du coup, cette idéologie gestionnaire et ces nouveaux outils ils entraînent tout un processus de déconflictualisation, au sens politique du terme. C'est-à-dire qu'on interroge l'outil ou l'indicateur, mais on n'interroge pas le sens de l'outil ou le sens de cet indicateur. Et comme le travail s'intensifie en même temps, du coup, tout ce qui pouvait être de l'ordre des réunions collectives, par exemple, où on va aller interroger le sens. Oui, quel sens ça a de parler de taux de sortie positive, etc. Là, quel sens ça a d'ouvrir un dispositif où on sait par avance que toutes les personnes qui y ont droit ne pourront pas y avoir droit en même temps, et donc il va falloir opérer une sélection, et sur quelle base, sur quels critères on va sélectionner, etc., etc. Mais du coup, en fait, toutes ces réunions collectives-là, elles tendent à être gommées, à ne plus exister. Et là, ça, c'est difficile pour les travailleurs sociaux parce que c'est justement ces espaces-là qui étaient des espaces de conflit mais au sens de mise en perspective de la portée politique de leur travail, qui venait soutenir leur capacité à utiliser des émotions dans la production d'un service. Les deux sont en lien. Il faut qu'on puisse interroger le sens du travail, le sens politique de son travail, pour que puisse être mené à bien un travail sur et à partir des émotions. Et du coup, ça, c'était empêché. Et c'est un des points que souligne très rapidement, en fait, Harley Hochschild dans son livre, et je termine là-dessus, quand elle parle du travail émotionnel collectif. Et c'est un peu trop, voilà, c'est un peu trop court. C'est un peu trop court, on en attendrait un petit peu plus. Il y a quelque chose qu'elle soulève qui est très intéressant et que j'ai aussi un petit peu travaillé, c'est le fait, c'est la position des superviseurs là-dedans. La position des superviseurs, elle le dit très rapidement en une phrase à la fin, et elle dit ces superviseurs, ils ont une tâche importante parce que c'est eux qui vont faire la retraduction, à la fois la gestion émotionnelle de ceux qui gèrent les émotions et en même temps la retraduction vers les services administratifs et la hiérarchie. Et sur mon terrain d'étude, je peux vous assurer que parmi les personnes qui étaient le plus en situation de souffrance et de mal-être parmi les travailleurs sociaux, c'était précisément ces superviseurs-là qui étaient là des responsables de circonscription. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie.